Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Enfant, je snobais les émissions de Passe-Partout. Je disais que c'était pour les bébés. En vérité, je connaissais par cœur tous les épisodes. Difficile de faire autrement avec mon frère et ma sœur qui ne manquaient jamais une émission. C'est Patrick Duquette, dans Le Droit, qui écrit cela. Dans le fond, j'aimais bien regarder Passe-Partout, mais de loin, assis à la table de la cuisine, en feignant de faire autre chose. Il y avait Passe-Partout, Passe-Montagne, Fardoche. Ma préférée, mais je ne l'aurais avoué pour rien au monde, c'était Passe-Carreau. Ah, la jolie Passe-Carreau. Passe-Carreau, ou plutôt Claire Pimparé, qui était de passage en Outaouais hier, le temps de visiter deux écoles primaires. À l'école La Source de Gatineau, la directrice de l'école, groupie finie de Passe-Carreau, était encore sous le choc. « Vous avez gardé la même voix », s'extasiait Nathalie Bertrand, émue aux larmes de rencontrer son idole de jeunesse. « J'ai fait semblant de rien. Après toutes ces années à feindre de détester Passe-Partout, je n'allais pas tout ruiner d'un coup. » Bien sûr qu'elle a changé, Claire Pimparé. Elle avait 24 ans au début de Passe-Partout. Elle en a 62 aujourd'hui. La comédienne le constate d'ailleurs elle-même avec humour. Maintenant, il serait plus juste de parler de grand-maman Passe-Carreau. Claire Pimparé est pour la 6e année porte-parole de la Fédération autonome de l'enseignement. Et le syndicat d'enseignants pouvait difficilement se trouver une porte-parole plus convaincue. Alors que Québec s'apprête à sabrer dans l'éducation, Mme Pimparé exhorte le gouvernement Couillard à financer adéquatement l'école publique avant de subventionner aussi généreusement le privé. Claire Pimparé parcourt la province ces jours-ci afin de lever le voile sur la réalité des écoles publiques qui doivent composer avec des enfants issus de milieux défavorisés. D'où cet arrêt hier à l'école La Source, une des 70 écoles du Québec à offrir la prématernelle à des enfants de 4 ans issus de la pauvreté. La création de ces classes de prématernelle avait suscité une certaine méfiance à l'époque de la part des milieux des services de garde. Ceux-ci craignaient la concurrence déloyale. Dans les faits, les enfants qui se retrouvent dans ces prématernelles n'iraient pas à la garderie, nous explique-t-on. Leurs parents n'ont pas les moyens de payer le 7 $ par jour. Voilà donc des enfants de 4 ans qui seraient condamnés à rester seuls à la maison durant le jour alors que leurs parents vont travailler. Seuls, sous la supervision d'un frère plus âgé, par exemple, ou scotchés à la télé. Dans tous les cas, c'est l'école publique qui les récupère, ces enfants-là, pas le privé, fait remarquer Claire Pimparé. Il faut permettre à ces enfants-là, des enfants de 4 ans, d'avoir le droit, comme tout le monde, à l'éducation, d'avoir le droit de se défendre dans la vie, de se trouver un emploi, plaide-t-elle. À l'école, La Source, on réalise des miracles pour aider ses enfants de 4 ans à rattraper leur retard, écrit Patrick Duquette. La classe de Jessica Tadio-Foster a accompli des progrès phénoménaux depuis la rentrée. En un mois, les enfants sont devenus capables de respecter une routine, de demander de l'aide. Ils ont gagné confiance en eux et sont capables d'exprimer de la fierté par rapport au projet qu'ils réalisent. Dans la classe de Jessica, les enfants ignoraient tout de Passe-Carreau. Pour eux, Claire Pimparé, c'était Madame Claire. Ils l'ont adoptée tout de suite. Faut dire qu'elle a le tour. Elle les a fait chanter, danser et rire. Après l'entrevue, j'ai demandé à Claire Pimparé la permission de prendre une photo de nous deux. C'est pour ma fille, ai-je précisé, ma fille de 7 ans qui a découvert les épisodes de Passe-Partout grâce au coffret souvenir du 40e. Claire Pimparé a dit oui tout de suite. Elle s'est résolument collée contre moi, a levé le pouce en l'air et hop, un selfie. Juste avant le déclic, elle m'a collé un bisou chaud et doux sur la joue. Un bisou de Passe-Carreau quand même. Mais j'allais pas me trahir. Alors j'ai juste dit, oh, c'est ma fille qui va être heureuse. J'ai sous les yeux une photographie tellement charmante, une photographie de Mafalda. Mafalda en dur, évidemment, et qui est tellement bien représentée, assise à côté de qui, mais à côté de nul autre que celui qui l'a créée, c'est-à-dire l'Argentin Quino. Et ils sont sur un banc de parc à Buenos Aires. Quino est, lui, âgé de 82 ans. Et Mafalda, eh bien, Mafalda, elle célébrait hier ses 50 ans, d'où cette photo prise en Argentine. « Denis Graton, lui, nous propose ce matin une chronique madrilène. Il écrit « Je dois être l'un des rares à n'avoir jamais cassé la croûte au restaurant Le Madrid ». Vous connaissez sûrement l'endroit. Le Madrid est un resto vieux de plus de 50 ans qui se trouve sur l'autoroute 20 près de Drummondville entre Montréal et Québec. Et réputé pour sa décoration kitsch, ses monster trucks et ses dinosaures à l'extérieur qui attirent le regard des automobilistes, ainsi que pour son menu varié qui offre du spaghetti et des mets chinois en passant par le club sandwich et le hot chicken, le Madrid est devenu au fil des ans un attrait touristique presque incontournable. Durant les belles années, plus de 400 000 personnes s'y arrêtait annuellement. J'ai souvent emprunté l'autoroute 20, mais jamais n'ai-je eu le temps ou la faim pour m'arrêter à cette institution visitée par de nombreuses personnalités publiques telles Louis-José Houd, Éric Lapointe, Normand Brathwaite et Bernard Landry, pour ne nommer que celles-ci. Et c'est sans oublier le chanteur-compositeur Normand Lamour, qui a été rendu célèbre pour sa chanson « La poignée de porte », qui s'était installé au Madrid pour vendre ses disques et se faire photographier avec les visiteurs durant la saison estivale. Bref, je devais m'y arrêter. Un repas à ce restaurant manquait à ma culture. Je me rendais à Québec avec un collègue jeudi dernier. En quittant Ottawa, je lui ai demandé s'il voulait s'arrêter en cours de route pour prendre le lunch. « On s'arrêtera une fois passé Montréal », m'a-t-il répondu. On pourrait s'arrêter dans un Normandin, hein, lui ai-je répliqué. Bof, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus original. Bah, ou encore au Madrid, lui ai-je suggéré. Je n'ai jamais été à cet endroit. Jamais? Pas une seule fois. Alors c'est là qu'on prendra le lunch. C'était décidé. J'allais enfin voir le Madrid. J'avais hâte, écrit Denis Graton. Puis je me suis souvenu d'avoir lu quelques textes il y a 2 ou 3 ans sur la fermeture de ce restaurant. N'est-il pas fermé ? Ai-je demandé à mon collègue. Oui, il a fermé ses portes en 2011. Il a été démoli, mais les nouveaux propriétaires en ont construit un autre qui a ouvert ses portes l'année suivante. On l'a renommé le Madrid 2.0. Je ne m'y suis pas arrêté depuis sa réouverture. Bon, je n'aurais jamais vu le Madrid original, mais au moins j'allais pouvoir dire que j'ai mangé au Madrid 2.0 au moins une fois dans ma vie. Et nous avons bel et bien mangé au Madrid 2.0. Quelle déception! Oui, les dinosaures étaient toujours là, bien en vue, et toujours aussi quétaines. Les Monster Trucks, par contre, ont disparu. Ça m'était égal, je n'ai jamais tripé sur ces véhicules ridicules. On gare la voiture, on a entré. C'est pas vrai. Il n'y a plus de restaurants tels qu'on les connaît à l'intérieur du Madrid, mais bien une grande pièce de style cafétéria où se trouve un comptoir des restaurants Saint-Hubert et un comptoir McDonald's. Et sans oublier le dépanneur Couche-Tard. C'est rendu sale, Madrid. Un Saint-Hub et un McDo. Misère. Vous comprendrez donc que je ne me targuerai pas d'avoir visité le Madrid parce que j'aurais honte d'avouer qu'à ma seule visite à cette institution, j'ai mangé un Big Mac. J'aurais préféré une pizza au Normandin. Et puis là, il passe sur un autre sujet, Monsieur Denis Graton. Il dit « Collectionnez-vous les points Air Miles ? Moi, si. Et depuis un an ou deux, on peut utiliser les points amassés pour payer ses achats, excluant les médicaments dans les pharmacies Jean Coutu de l'Ontario. Cette politique est en vigueur dans les pharmacies Jean Coutu du Québec depuis plusieurs années. » Or, l'autre jour, je devais passer à cette pharmacie pour un médicament, mais je n'ai pu m'empêcher de me procurer également du papier hygiénique de bonne qualité vendu à rabais. Oui, oui, du papier hygiénique, dit Graton. Ou comme tout le monde dit, du papier de toilette. 30 rouleaux, soit l'équivalent de 50 rouleaux, pouvait-on lire sur l'emballage, pour la modique somme de 10 dollars, une vraie aubaine. Mais je n'ai jamais compris pourquoi le fabricant de ce papier vend 30 rouleaux qui équivalent à 50. Fallait que je partage avec vous toutes les questions existentielles. Attendez, qui va à 50, et là j'ai raté une ligne. Pourquoi ne pas vendre ces emballages de 50 rouleaux et l'afficher comme 50 rouleaux? Mais enfin, s'il fallait que je partage avec vous toutes les questions existentielles et saugrenues qui me passent par la tête en une journée, vous me suggéreriez fortement de consulter un professionnel de la santé mentale. Donc, je prends le paquet de 30 rouleaux, qui sont en fait 50 rouleaux, je me pointe à la caisse, où la commis m'informe que j'ai 10 dollars d'accumulés sur ma carte Air Miles que je peux utiliser pour mon achat. D'accord, lui ai-je répliqué, mais avouez que c'est tout de même pathétique. Quoi ça, monsieur ? Accumuler des points Air Miles pendant toute une année en rêvant au voyage que je ferai un jour avec ces points pour finalement les utiliser pour m'acheter du papier toilette. Moi, a-t-elle acquiescé en souriant. C'est choquant. Je pense qu'elle aurait voulu dire « ça fait ch... »
lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
La nouvelle est tombée en début de semaine dernière. Youssouf Cat Stevens lancera le 28 octobre un troisième album pop depuis 2006, Tell 'Em I'm Gone, écrit Alain de Repentigny dans la presse ce matin. Et après une virée européenne, il remontera sur des scènes nord-américaines pour la première fois depuis 1976. Tous les billets pour le premier concert nord-américain à Toronto le 1er décembre se sont envolés dès leur mise en vente. Le producteur Evenko a tenté sans succès d'amener Youssouf Cat à Montréal, mais il n'est pas impossible qu'il vienne nous voir si jamais il décidait de poursuivre cette tournée en 2015. « Si je viens à Montréal, a-t-il dit au téléphone, je vais essayer d'éviter l'hiver. » Lui qui connaît bien, entre autres, André Perry, puisqu'il a travaillé au studio d'André Perry à Morin Heights. Alors, pendant sa retraite, il a enregistré quelques albums religieux, nous dit Alain de Repentigny, mais quand son nom se retrouvait dans les journaux, c'était la plupart du temps en raison d'une controverse. Dans les années 80, on a écrit qu'il avait approuvé la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini contre l'auteur Salman Rushdie, ce dont il s'est défendu de façon malhabile. Étonnant tout de même de la part de l'auteur de Peace Train, qui allait par la suite remporter plusieurs prix pour son engagement en faveur de la paix. S'il est revenu à la chanson, c'est parce que ses 5 enfants étaient élevés, dit-il en riant. Puis il ajoute « Je m'étais débarrassé de tous mes instruments de musique et c'est mon fils, Muhammad Islam, devenu depuis son agent, qui a ramené une guitare à la maison. Quand j'ai recommencé à jouer de la guitare, j'ai senti une toute nouvelle brise d'inspiration que j'avais le goût de partager. Ce n'est pas tellement qu'il rejetait les chansons écrites dans une autre vie et qui constituent l'essentiel du programme de ses concerts depuis son retour. Il fallait que je passe par-dessus mon zèle qui m'a fait tout balancer et que j'en arrive à voir les choses dans une autre perspective. Quoique ma femme ne me permettrait plus de jouer Lady d'Arbanville, dit-il à propos de la chanson qu'il a composée pour l'actrice américaine Patty d'Arbanville, qui a été sa compagne à la fin des années 60. Tell 'em I'm Gone étonnera sans doute ceux qui ont encore en tête le Cat Stevens Fleur Bleue qui chantait Morning Has Broken et dont les pochettes de disques semblaient faites sur mesure pour un livre de contes pour enfants. Youssouf Cat y aborde principalement des sujets sociaux et politiques dans 5 chansons de son cru et autant de reprises. Quand je me suis joint à la révolution musicale qui était en marche, nous voulions changer le monde en profondeur, explique-t-il. Toutefois, la technologie et l'économie ont rattrapé le mouvement qui a commencé à verser dans le consumérisme. Il y a beaucoup de gens au chômage et quand je pense au mouvement anti-Wall Street, je me dis qu'il y a de bonnes raisons d'être en colère. Il faut encourager les gens à penser différemment et à faire quelque chose de nouveau. D'un naturel décontracté, Youssouf Islam se fait tout à coup plus prudent lorsqu'on fait une allusion directe à la controverse Salman Rushdie. Il dit « Mes chansons me donnent la possibilité de dire ce que je veux sans aucune intervention de la part de ceux qui montrent les gens du doigt, confortablement assis sur leur nuage blanc. C'est ma façon de leur rendre la monnaie de leur pièce. » 25 ans après l'affaire Salman Rushdie, lui demande Alain de Repentigny « Sentez-vous encore le besoin de vous expliquer ?» Il écrit, il dit, Cat Stevens, je viens tout juste de lancer un livre au Moyen-Orient dans lequel je dois également expliquer à une bonne partie du monde musulman pourquoi j'ai repris ma guitare. Dans le grand voyage de la vie, tu commets parfois des erreurs que tu essaies de réparer et puis tu passes à autre chose. Malheureusement, certains journalistes ne sont pas vraiment passés à autre chose et j'aborde quelques-unes de ces questions qu'on aurait dû enterrer il y a longtemps. Dans la presse, Caroline Rogers nous apprend que les élèves du conservatoire à Montréal veulent la tête du DG. Les 220 élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal ainsi que leurs 650 camarades étudiants en musique de l'Université de Montréal sont en grève aujourd'hui pour protester contre les fermetures appréhendées de 5 conservatoires régionaux. Ils réclament aussi la démission de Nicolas Desjardins, directeur général de l'institution. Une manifestation aura lieu à 12h30 à la place Marguerite Bourgeois, près des bureaux du ministère de la Culture. Les protestataires marcheront ensuite jusqu'à la place des Arts, où ils offriront une prestation musicale à 14h30 sous la direction du chef Jean-François Rivet, professeur à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Rappelons que la ministre Hélène David doit prendre connaissance aujourd'hui d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire du conservatoire. Selon un document officiel obtenu par Le Soleil le 18 septembre, le conseil d'administration de l'institution recommanderait à la ministre de fermer les conservatoires de Trois-Rivières, Rimouski, Saguenay, Gatineau et Val-d'Or. Et puis, un petit peu plus en bref, au cinéma, Mommy frôle le million déjà, avec des recettes de $222,000 pour son deuxième week-end en salle. Le long métrage Mommy de Xavier Dolan était en voie hier de franchir le $1 million au box-office. Et puis aussi, en bref, le traité de Paris en supplémentaire. La présentation au Musée de la civilisation de Québec du traité de Paris de 1763 connaît un tel succès que le gouvernement français a accepté que le document historique demeure 10 jours supplémentaires dans la vieille capitale. Les visiteurs ont donc jusqu'au lundi 13 octobre, sauf le lundi 6 octobre, pour consulter ce document dans lequel la France renonçait à la possession de la Nouvelle-France, qui devenait alors officiellement propriété de la Grande-Bretagne. Par ces mots, l'écrivaine Kim Thuy a dressé des ponts entre le Vietnam qui l'a vu naître et le Québec qui l'a accueilli enfant. Son œuvre, pleine de finesse et d'humanité, lui a valu lundi le prix Charles Biddles 2014, soulignant l'apport d'une personne immigrante au développement culturel. Kim Thuy nous apprend beaucoup sur l'humain, sur la vie, sur l'exil et nous incite au rapprochement entre Québécois de toutes origines, à saluer la ministre de l'Immigration, Kathleen Veil, en remettant son prix à l'écrivaine aux côtés du fils du grand jazzman Charles Biddles Jr. Et puis, de la pop en attendant Mahler, écrit Claude Gingras, le principal événement de la semaine est la présentation par Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain de l'inachevée 10e symphonie de Mahler, dans la version complétée et orchestrée par le musicologue Derek Cook, et totalisant près de 80 minutes sans entracte. Avec ce concert donné vendredi et repris samedi à 19h30 à la Maison Symphonique, l'OM entreprend sa 34e saison et Nézet-Séguin sa 15e à cet orchestre. Avant chaque concert à 19h, conférence de Claudio Ricignuolo sur l'œuvre. La version Cook existe en trois moutures légèrement différentes, nous dit aussi Claude Gingras. Et puis, plus tôt cette semaine, nos deux grands orchestres bifurquent vers la pop, nous dit-il, ce soir et demain, 20h. À la Maison Symphonique, Simon Leclerc dirige l'OSM et le groupe Les Trois Accords. Jeudi, 19h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste, Nézet-Séguin dirige l'OM et le groupe Mister Valère. C'était Mister Valère qu'on écoutait avant qu'ils aillent faire dans le symphonique avec, en fait, l'orchestre métropolitain, c'est pas avec le symphonique de Montréal, qu'ils seront là jeudi à l'église Saint-Jean-Baptiste. Nordique, l'État a assez investi, vous l'aurez compris, on va passer brièvement sur les sports avec cette chronique de Philippe Quentin qui écrit dans la presse. C'est dans un contexte politique chaud où les plans du gouvernement Couillard visant à équilibrer les finances publiques suscitent grogne et inquiétude que Sam Hamad a eu cette formidable idée L'État pourrait participer au retour des Nordiques. Le ministre responsable de la région de la capitale nationale n'a jamais caché son soutien à ce projet. Mais il faut néanmoins être déconnecté de la réalité pour suggérer, en cette période aride, que l'argent des contribuables soit ainsi utilisé. Le hockey de la LNH, rappelons-le à M. Hamad, est une industrie où les joueurs touchent des millions chaque saison et qui génère plus de 4 milliards de revenus par année. Il existe sûrement au Québec des secteurs où l'appui de l'État serait plus déterminant et servirait mieux le bien commun, écrivait Philippe Quentin ce matin. Le premier ministre Couillard aurait pu tuer dans l'œuf cette idée saugrenue. Pas du tout. Il en a même remis, exposant les conditions où l'État pourrait soutenir un investisseur privé par l'entremise d'un prêt, par exemple. Si c'est payant d'avoir une équipe de hockey, je veux que les contribuables fassent de l'argent également. Payant une équipe de la LNH à Québec, compte tenu du coût d'acquisition d'une concession et de l'augmentation continue des salaires des joueurs, ce serait étonnant qu'elle génère des profits colossaux. Sur le plan économique, poursuit Philippe Quentin, si Québécois souhaite obtenir un club, c'est notamment parce que la présence des Nordiques lui vaudrait des contenus attrayants pour ses différentes plateformes, dont TVA Sport. Détenir une équipe est payant si celle-ci sert à alimenter d'autres composantes de l'entreprise qui généreront ainsi des profits additionnels. C'est encore plus vrai dans un marché de la taille de Québec. Dans tout ce débat, le ministre de l'Économie, Jacques Daou, a été le plus sensé. En entrevue à Radio-Canada, il a expliqué que l'État donnait habituellement des garanties de prêts lorsque le risque était trop élevé pour les investisseurs courants. Alors posons-nous la question. Si jamais on a à y répondre, l'État doit-il intervenir pour acheter un club de hockey dans une situation où c'est trop risqué pour le marché traditionnel ? J'arrête là mon explication, a-t-il dit, souhaitant que ses collègues l'aient entendu. Pierre-Carl Péladeau peut être le prochain chef du Parti québécois, qui peut être le prochain chef du Parti québécois, a eu raison de rappeler le gouvernement à l'ordre, qualifiant les propos de Philippe Couillard et Sam Hamad de curieux paradoxes. Comment, en effet, songer à investir dans une équipe professionnelle au moment où l'État sabre ses dépenses ? Bien d'accord avec cette théorie, dit Quentin, sauf que M. Péladeau est drôlement placé pour la soutenir. Mieux que tout autre, il sait que son projet de ramener les Nordiques à Québec serait déjà mort et enterré si le gouvernement n'avait pas pompé 200 millions dans la construction du nouvel amphithéâtre. Cette subvention a été le véritable élément déclencheur du projet. Lorsqu'il dirigeait Québecor, M. Péladeau n'a jamais proposé que son entreprise participe financièrement à la construction de l'édifice. Il a toujours trouvé parfaitement normal que ce nouveau colisée, érigé dans le but avoué d'attirer une équipe de la LNH, se fasse avec l'argent des contribuables. Il n'y a vu aucun curieux paradoxe, même si l'économie québécoise était déjà essoufflée. Ironisait ce matin Philippe Quentin dans sa chronique de la presse en ce 30 septembre 2014. Voilà, c'est ainsi que ça se termine pour ce mois de septembre 2014. Rendez-vous demain matin, 1er octobre, dès 10h. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Je vous souhaite une très agréable fin de journée. Salut.